Bon, j'hésitais, je ne savais pas quoi étudier ensemble pendant ces mois de l'automne. Finalement, j'ai décidé que nous allons commencer au moins une étude ensemble dans l'Épître aux Philippiens. Et je voudrais commencer notre étude de cette lettre, de la lettre écrite par Paul aux Philippiens, par un aperçu ou par un survol, si vous voulez, du thème dominant de cette lettre. Parce que je crois que l'exposition de la vérité d'un livre ou d'une épître verset après verset après verset est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va bientôt faire dans les semaines à venir. Mais quand même, le vu d'ensemble, l'aperçu, est aussi très important et ne peut pas être négligé. Et la raison pour ceci, c'est parce que si nous regardons seulement les versets après versets après versets et nous ne regardons pas le texte dans son entier, il y a des emphases, il y a des points à souligner que nous allons manquer si nous ne le regardons pas comme un texte en entier. Je me rappelle une fois que quelqu'un m'a dit qu'il trouvait tant de vérité dans sa lecture de la Bible chaque jour que normalement il lisait qu'un verset par jour et puis il n'avait pas de temps pour lire plus. Alors cela veut dire que ça lui prendrait 104 jours pour lire la lettre aux Philippiens, parce qu'il y a 104 versets. Et je peux vous assurer que s'il réussirait, il n'aurait pas saisi la vérité que la lettre dans son entier veut nous apporter, veut nous apprendre. Comme exemple, mes beaux-parents, les parents de René, habitent dans une belle maison située sur à peu près 8 hectares dans le Caroline du Nord, aux États-Unis. Et pour y arriver, vous devez prendre un chemin de terre pendant plus d'un kilomètre pour arriver à la maison, située dans les bois. Et il y a plusieurs manières d'éprouver, d'expérimenter la maison des Pankés, comme ils s'appellent. Ma première impression, je me souviens toujours, c'était la nuit. J'arrivais en voiture, on a pris ce chemin de terre pour arriver à la maison. Et c'était avant même qu'on se fréquentait, on ne se connaissait pas beaucoup à cette époque. Mais mon endroit préféré, c'est dans le grand fauteuil de mon beau-père. J'aime bien y être, s'il n'est pas là, parce que s'il est là, je dois toujours lui céder la place. Mais un jour, il m'a amené, parce qu'il est pilote, son métier, il est mécanicien d'avion, il m'a amené dans un Cessna 210, on a volé au-dessus du capital de Caroline du Nord, et puis au-dessus de son village, et puis on est descendu en piqué juste au-dessus de la maison. Et là, j'ai pu apprécier la maison de mes beaux-parents dans une façon très différente que je n'avais jamais vue auparavant. Donc il y a plusieurs endroits, plusieurs manières de connaître la même vérité. Ce n'est pas que la maison a changé, c'est que ma position, mon point de vue avait changé. Donc il y avait des vérités différentes que j'ai vues dans l'avion, que je n'ai pas vues dans le fauteuil ou dans le sens contraire aussi. Et c'est légèrement pareil avec l'écriture, parce que c'est pas que la vérité change, non, pas du tout, c'est parce que les emphases principales changent, les thèmes principaux de l'écriture ne peuvent pas être saisis en regardant l'écriture un seul verset à la fois. Donc nous avons besoin de la vue microscopique et aussi de la vue télescopique, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de nous débarquer, avant de commencer notre étude verset après verset, je vais vous mettre dans un avion. On va survoler le terrain pour voir la lettre des Philippiens depuis le ciel, depuis très haut. Et j'espère avec l'aide de l'Esprit de Dieu que l'impression que cette lettre est conçue de faire quand elle est vue dans sa totalité nous sera communiquée. Philippiens a un thème dominant. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais ce thème est presque universellement identifié comme étant la joie. La joie. 5 fois le nom « joie » est utilisé et le verbe « d'avoir la joie » ou « de se réjouir » est trouvé au moins 11 fois dans cette lettre. Et donc, ce n'est pas seulement le thème dominant, mais quand vous regardez les gens de qui ça parle, vous voyez que c'est la caractéristique principale de l'auteur et des destinataires de cette lettre. Alors, je vais vous demander une question. Qu'est-ce que c'est que la joie? Qu'est-ce que c'est la joie? Vous savez, des mots comme ceci qui sont très utilisés sont souvent les plus durs à définir. Je suis en train de lire un livre écrit par Eric Orsena de l'Académie française, titré « La grammaire est une chanson douce ». Je ne l'ai pas amené avec moi. Mais c'est une belle petite histoire de deux enfants qui sont naufragés, qui se trouvent sur un îlot. Le seul problème, ils ne peuvent plus parler. Ils ont perdu tous leurs mots. Les mots se sont échappés. Et donc, il y a un guide qui arrive, qui les aide. Et un jour, il les amène à la ville des mots. Vous savez que les mots avaient une ville où ils habitaient tous ensemble, sans que personne ne les dérange. Et la ville des mots est divisée en tribus. Il y a la tribu des noms, qui est la plus nombreuse, et puis la toute petite tribu des articles, et puis il y a la tribu des adjectifs et la tribu des pronoms, qui sont malins parce qu'ils sautent sur les noms pour les remplacer. Et puis le guide amène les enfants devant le bureau des exceptions, où se trouvaient ce matin-là un pou, un hibou et un genou, qui se moquaient d'une marchande qui essayait de leur proposer des as. Ils ne voulaient pas des as. Et ensuite le guide les amène à l'hôpital des mots, parce que les mots ont besoin d'un hôpital. Et dans l'hôpital, immeuble sur son lit, il trouve la toute petite phrase bien connue, trop connue, dit le guide, « Je t'aime ». Il est tellement usé, tellement fatigué d'être abusé par les hommes et les femmes qui se trouvent à l'hôpital. Et finalement, le guide leur donne cet avertissement. Il leur dit, il faut faire attention aux mots, ne pas les répéter à tout bout du champ, ne pas les employer à tort et à travers les uns pour les autres en racontant des mensonges, autrement les mots s'usent. Et parfois, il est trop tard pour les sauver. Bon, le mot joie ne se trouvait pas à l'hôpital ce jour-là, mais je suis sûr qu'il souffre aujourd'hui d'être utilisé par tant de personnes dans tant de manières différentes. Et j'espère vous donner dans les semaines à venir une définition complète pour la joie comme on la trouve dans la Bible. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est observer en action la joie dans la vie de Paul. Parce que le monde a son idée de la joie. Le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le dictionnaire, nous dit que la joie est une, et je cite, « émotion vive, agréable, limitée dans le temps, sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits. » Vous voyez, c'est la sensation que vous avez quand vos ambitions, vos désirs, vos rêves viennent à être satisfaits. C'est une profonde satisfaction. Et quand vous pensez du monde, la joie est une poursuite universelle. Tout le monde veut connaître la joie. Tout le monde veut éprouver la joie. Mais si vous demandez à une personne non régénérée, c'est-à-dire non sauvée, qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas le Seigneur, et si vous leur demandez d'expliquer exactement comment vous obtenez la joie ou cette profonde satisfaction, ce que vous allez trouver, c'est que les gens relient toujours la joie ou l'expérience de la joie aux circonstances vécues. C'est-à-dire, en d'autres termes, la joie est une profonde satisfaction, oui, mais basée sur des circonstances positives. Bon, ce que cela veut dire, c'est pour la plupart des gens, la joie est ma profonde satisfaction dans mes circonstances. En fait, dans le monde, le concept du mot joie est tellement lié et déterminé par mes circonstances que la seule manière de connaître la joie, c'est d'essayer d'éprouver les circonstances qu'ils espèrent produiront la joie pour eux. Et donc, c'est pourquoi les gens font le saut à l'élastique, ils font le saut en parachute, la plongée libre, le pêche en haute mer, c'est pour ça qu'ils font le golf, c'est pour ça qu'ils font partie des clubs de culture ou de cyclisme, ou des gangs de motards, ou d'autres gangs ou bandes, c'est pourquoi ils vont à des fêtes et deviennent ivres, c'est pourquoi ils s'engagent dans des activités sexuelles illicites, c'est pourquoi ils regardent la pornographie, ou ils vont dans les boîtes de nuit, ou ont des relations amoureuses hors du mariage, c'est pourquoi ils mangent, ils boivent, c'est pourquoi ils ont des amis, parce qu'ils recherchent tous la joie. Tout le monde veut connaître la joie, ils veulent cette profonde satisfaction, comme dit le dictionnaire. Et la seule chose qu'ils savent faire pour éprouver la joie, c'est d'avoir des circonstances qu'ils espèrent produiront la joie en eux. Et ils comprennent une chose, c'est que la joie est toujours l'effet d'une cause. La joie ne vient jamais indépendamment. Je peux vous promettre que vous n'allez pas vous lever un jour cette semaine, à 6 heures quand votre alarme sonne, et paf, vous avez la joie, sans qu'il n'y ait rien qui ait produit cette joie en vous. Vous devez avoir la joie en quelque chose, c'est ça mon point. Et ainsi la qualité et la durée de votre joie sera déterminée par la qualité et la durée de la cause ou de la source de votre joie. Par exemple, si la cause de votre joie est un temps ensoleillé, si ça vous cause de la joie, alors vous serez heureux tant qu'il est quoi ? Ensoleillé, n'est-ce pas ? Parce que c'est ça qui vous apporte la joie. Vous voyez, c'est pourquoi la joie terrestre est si capricieuse, et si imprévisible, et si instable, parce que les causes de la joie humaine sont si capricieuses, imprévisibles et instables. Et vous connaissez un homme par ceux dans lesquels il trouve la joie. Vous pouvez connaître une femme par ceux dans lesquels elle prend plaisir. Et je dirais même plus, vous connaissez un chrétien par ce qui lui rend heureux. Et dans le Nouveau Testament, la joie est incontestablement un thème à souligner. Plus de 155 fois, le Nouveau Testament parle de la joie. C'est une bonne chose. La Bible veut qu'on connaisse la joie. Mais l'Écriture est surtout concernée avec les sources ou la cause de la joie. Et c'est exactement là où la notion biblique diverge radicalement de la notion du monde concernant la joie. C'est là où on trouve la cause, la raison d'être joyeux, la raison de se réjouir. Vous voyez, la joie de la Bible n'est jamais provoquée par les circonstances terrestres en elles-mêmes, tandis que la joie du monde l'est toujours. Et c'est comme je vous l'ai dit déjà, la qualité et la durée de votre joie est déterminée par la qualité et la durée de la source de votre joie. La joie du monde est imprévisible et superficielle parce que leurs expériences sont superficielles. Et la Bible indique que vous pouvez trouver la joie dans d'autres choses, des choses qui durent même éternellement. Dieu veut que vous éprouviez la joie. En fait, il vous commande d'avoir la joie, n'est-ce pas? On a lu ça en Philippiens chapitre 4. Il vous commande de joyer, si vous voulez. Parce que le verbe se réjouir, dans le grec, c'est la même racine que le mot joie. Il y a le nom joie, et puis il y a le verbe joyer. D'avoir la joie, de pratiquer la joie, de démontrer la joie que vous avez déjà en vous. Et je veux que vous voyez ce qui a rendu Paul heureux. Et ce qui ne l'a pas déprimé. Je veux que nous évaluons nos émotions par rapport aux siens. Alors, êtes-vous prêts? Vraiment une vue d'ensemble, hein, un survol. Donc, mettez vos ceintures. Rappelez-vous que c'est un vol non fumeur. Et on y va. Paul se réjouissait, premièrement, dans l'intercession en raison de son amour pour les saints. C'est quoi l'intercession? Bon, quand nous pensons de ce mot, j'espère qu'on pense premièrement à Jésus-Christ et la médiation de Jésus-Christ devant le Père. Mais nous pouvons et nous devons le faire les uns pour les autres. C'est de prier, d'aller devant Dieu pour prier pour d'autres personnes. C'est de ça qu'il parle. Et nous ne devons pas aller loin pour trouver ceci. La première utilisation de Paul du mot « joie » et dans le cinquième verset, mais commençons par le troisième verset. Donc, on est en Philippiens, chapitre 1 et verset 3. Regardez, Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » ou ça serait mieux traduit comme dans le Darby, faisant toujours des supplications pour vous tous avec joie. Il fait des supplications. C'est pour ça que j'utilise le mot intercession. Des supplications pour eux avec joie. Il se réjouissait dans la prière pour les autres, dans l'intercession. Quand Paul priait, il priait avec joie. Il aimait prier. Quelles étaient ces prières d'intercession que Paul priait pour ses Philippiens? Bon, regardez le verset 9. Vous pouvez voir sa prière même. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est ici, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Quelle prière merveilleuse à prier pour quelqu'un. Ça, c'est sa prière. Paul priait pour tout le monde. Il dit aux Romains, « Dieu que je sers en mon esprit, dans mon évangile, de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. » Il écrit aux chrétiens en Éphèse, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Vous voyez, il priait encore. Il écrit aux Thessaloniciens, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Paul priait. C'était, on pourrait dire, un intercesseur. Et il le faisait avec joie. C'est une des choses qui lui causait la joie. Pourquoi est-ce que ça lui causait la joie? Bon, regardez le verset 4. Ne cessant, Philippiens 1, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie ou de supplier avec joie. Pourquoi? À cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, c'était à cause de son amour pour les saints. Là, quand il dit au sujet de la part que vous prenez, le mot qu'il utilise là, c'est le mot communion. Le mot communion, si vous enlevez les trois dernières lettres, vous avez quelque chose en commun, n'est-ce pas? Ils partagent quelque chose en commun, c'est pour ça qu'ils ont la communion. Et c'est ce qu'il dit ici, nous avons quelque chose en commun et c'est l'évangile, c'est le progrès de l'évangile. Nous avons ça en commun et donc je rends grâce à Dieu pour la communion que nous avons dans l'œuvre de l'évangile. Puis dans le verset 7, c'est encore plus clair, il dit « Je vous porte dans mon cœur ». Vous voyez l'amour qu'ils ont pour eux, ils ont en commun l'évangile, et puis ils les portent même dans son cœur. Et vous savez, c'est pas difficile de prier pour quelqu'un, de supplier Dieu pour quelqu'un, de pratiquer l'intercession pour des personnes que vous avez dans le cœur. Si quelqu'un a jamais eu une grand-mère aux frontières de la mort, ou un enfant qui était malade, vous savez de quoi je parle. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est facile à prier pour eux. Et vous devez ajouter ceci à notre premier point là. Non seulement Paul s'est-il réjoui dans l'intercession en raison de son amour pour les saints, mais également en raison de sa confiance en Dieu. Et ça, vous le voyez dans le verset 6. Regardez le verset 6 dans le contexte des versets 4 et 5. Donc on va recommencer en lisant le verset 4. Où il dit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et aussi parce que, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous voyez ça, c'était la confiance inébranlable de Paul dans la capacité de Dieu de rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencé en eux, qui poussait Paul à prier. Ça lui poussait à prier. Vous savez, personne ne veut combattre pour une cause désespérée, n'est-ce pas? Si on sait déjà que l'équipe a perdu, on ne veut plus jouer. Si c'est quelque chose de désespéré, pourquoi même prier? Mais si vous avez la puissance et la promesse du Dieu Tout-Puissant derrière vos requêtes, vous ne priez pas avec désespoir, vous priez avec joie. Donc les promesses de Dieu et même la souveraineté de Dieu ne poussent toujours à prier et jamais le contraire, si on le comprenne comme il le faut. Mais deuxièmement, Paul se réjouissait, pour continuer, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, car la cause de Christ progressait. Regardez le verset 12, Philippiens 1, verset 12. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Alors, quelles étaient ces choses qui lui sont arrivées? Vous voyez, en verset 12, il dit, « Ces choses qui m'est arrivées. » Bon, je peux vous dire qu'en ce moment-là, il avait les chaînes au poignet, il était prisonnier de César, son cas était retenu quelque part dans la bureaucratie romaine, il avait fait appel à César, vous vous rappelez, maintenant ça fait plus de 2 ans qu'il attend en prison pour que son cas aille en jugement. Et tout ce qu'il pouvait faire en ce moment, c'était d'attendre, de rester là dans sa résidence surveillée qu'il louait avec son propre argent, et attendre. Et peut-être même boudé. Ah non, 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 mais non, il dit aux Philippiens. Non, 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 je ne veux pas que vous ayez une fausse impression de mes circonstances. Regardez le verset 12. Je veux que vous sachiez, mes amis, mes frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, c'est-à-dire la garde romaine qui lui gardait, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, en plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Paul est en train de soulager les Philippiens concernant ses propres problèmes? Non, non, il ne faut pas être triste, mes amis. Mes problèmes ont eu comme résultat le progrès de l'Évangile. Et c'est clair que Paul pouvait se réjouir malgré les difficultés. Pourquoi? Parce que la cause de Christ progressait. Et ce qui donnait joie à Paul était différent que celle de la garde romaine, par exemple. La joie de la garde romaine était provoquée par l'absence des difficultés. Mais la joie de Paul est provoquée par le succès de l'Évangile malgré les difficultés. Et ce qui est frappant, c'est ce qui rend le chrétien heureux. Et c'est les choses qui ne le découragent pas. Il pouvait se réjouir dans les difficultés car la cause de Christ progressait. Alors si un jour vous tombez malade et vous devez aller même à l'hôpital, est-ce que vous pourriez rendre grâce à Dieu et même avoir de la joie si l'Évangile est en train d'avancer à cause de votre maladie? C'était le cas avec Paul. Et troisièmement, nous voyons que Paul se réjouissait malgré les détracteurs, car le nom du Christ était proclamé. Malgré les détracteurs, et il n'y en avait. Regardez le verset 15 de chapitre 1. Quelques-uns, il est vrai, prêche Christ. Et maintenant regarde ces mots qui suivent. Par envie et par esprit de dispute. Imaginez, prêcher l'Évangile par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes, c'est-à-dire envers moi, il explique en verset 16, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, ceux qui prêchent Christ par envie, ils sont animés d'un esprit de dispute, annonçant Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Ils essayaient, par la prédication de l'Évangile, de susciter des troubles à Paul. Déjà, il est troublé, déjà il a la souffrance, il est en prison. Et eux, ils veulent ajouter à sa peine, ajouter à ses angoisses. Et j'imagine ce qui se passait, c'est que Paul, il était en prison, il ne pouvait pas aller dehors, il ne pouvait pas prêcher, il ne pouvait pas faire la tournée des églises. Alors c'est notre chance, les autres pensaient. Maintenant, Paul, il est mis à part, nous pouvons être les nouveaux leaders, si vous voulez. Alors c'est quoi la réponse de Paul à ces gens qui prêchaient l'évangile mais pour lui faire du mal? Regardez le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'importe. Vous voyez? Qu'importe. Et de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et je m'en crois. Et je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Bon, comprenez que ce n'étaient pas des hérétiques qui prêchaient à notre évangile. Ils étaient orthodoxes. Ces hommes prêchaient le vrai évangile. Le problème n'était pas leur théologie, mais leur motif. Et nous voyons ici l'humilité, remarquable même, et exemplaire d'un ministre de l'évangile qui pouvait se réjouir dans la prédication de l'évangile des autres personnes qui essayaient intentionnellement de le nuire et de le diffamer. Voyez le verset 17 encore, « Avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » Pourtant Paul dit, « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Alors tout ce que je peux dire à ça, c'est que c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. C'est un serviteur pieux qui a pu se réjouir dans la proclamation du nom de Christ indépendamment du succès de son propre ministère. Même si son propre ministère est en train de souffrir, si Jésus-Christ est annoncé, ah, c'est assez pour lui. Il a de la joie. Mais quatrièmement, et je vous ai dit que c'était qu'un survol, hein, Paul réjouissait malgré, considérez ça maintenant, la mort. Malgré la mort, car la gloire de Christ pouvait être magnifiée. Parce que la gloire de Christ signifie tout pour lui. Regardez ce qu'il dit en verset 20. Il dit, je m'en réjouirai encore. Et puis il dit, selon ma ferme attente et mon espérance. Vous voyez, c'est la passion de Paul. C'est ce qui lui définit. Paul n'est pas un homme indifférent, il n'est pas un homme hésitant ou las. Il regarde toute chose comme une perte. Chapitre 3, verset 8 nous dit, il court vers le but. Chapitre 3, verset 14, il a appris à être content dans n'importe quelle situation. Chapitre 4, verset 11, il peut tout faire par Christ qui lui fortifie. Chapitre 4, verset 13, donc c'est un livre plein de ferveur, plein de dévotion, et c'est pour ça qu'il y a tant de joie, puisqu'il ressent tout très profondément. N'est-ce pas encourageant d'être près d'un chrétien qui est comme ça, qui est plein de joie dans l'éternel? Ça nous fortifie. Mais qu'est-ce que c'est cette ferme attente, si vous regardez le verset 20 encore? Qu'est-ce que c'est son espérance? Il nous dit, c'est que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ, voilà, sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Vous voyez, ces mots dans le verset 20 sont liés aux mots à la fin du verset 19. Je m'en réjouirai encore. Pourquoi? Parce que Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc je m'en réjouis à cause de ça. Bon, je suis sûr que je le redirai. Mais vous pouvez identifier la source de joie qu'une personne a dans la vie par sa vue de la mort. Bon, je vais le répéter et puis illustrer. Vous pouvez identifier la source de joie qu'une personne a dans la vie en regardant, en évaluant sa vue de la mort. Si la source de sa joie dans la vie est l'argent, alors la mort, c'est une perte d'argent, n'est-ce pas? Donc la mort est une perte. Si la source de sa joie dans la vie, c'est d'avoir de la renommée, alors la mort, c'est la perte de la renommée. Donc la mort est une perte. Si la source de sa joie dans la vie, c'est le plaisir terrestre, eh bien la mort est une perte de ce plaisir et par conséquent une perte de sa joie. Mais si la source de sa joie dans sa vie, c'est Christ, alors la mort nous approche de Christ, Alors la mort n'est plus une perte, la mort devient un gain. Parce que vous obtenez finalement plus de Christ quand vous laissez ce corps d'argile. Vous le verrez face à face et vous serez encore mieux, vous serez semblable à lui parce que vous le verrez tel qu'il est. Donc si Christ est votre vie, il suit que la mort, vous serez un gain. C'est pour ça que je dis que vous pouvez connaître la source de joie dans la vie d'une personne en regardant leur attitude envers la mort. Paul pouvait se réjouir dans tous les deux, dans la vie, dans la mort, parce que sa vie, pour lui, c'était Christ, et puis la mort, c'était encore plus de Christ. Et quand un chrétien meurt de cette façon, je vous promets que la gloire de Christ est magnifiée, parce qu'on voit que Christ a plus de valeur que toutes les autres choses du monde. Moi, je veux mourir comme ça. Cinquièmement, Paul se réjouissait malgré le prolongement de la vie, car l'Église de Christ est édifiée. Bon, là, vous avez l'autre côté du même phénomène. Pour certaines personnes, de penser à la mort, c'est la plus grande angoisse, la chose la plus terrible qui pourrait jamais arriver. Mais vous savez, il y a d'autres personnes que la pensée de devoir se lever jour après jour, la vie quotidienne, c'est ça la pensée la plus lourde et la plus difficile. Et Paul a vu les deux côtés. Paul pouvait se réjouir malgré le prolongement de la vie. Regardez le verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Oh, peut-être je préfère de rester dans la... Je veux tellement aller avec le Seigneur, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être je préfère rester ici. Non, je préfère aller au ciel. Non, je préfère rester ici. Vous voyez, je suis pressé, verset 23, des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, parce que je vous aime, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul ne pouvait pas décider s'il préférait aller être avec le Seigneur ou rester parmi les Philippiens et les églises. Parce que d'une part, il avait un amour pour le Seigneur qui lui poussait à vouloir être avec lui. Pourtant, de l'autre part, il avait un amour pour les saints. Il l'incitait toujours à chercher leur bien-être. Et heureusement, il n'a pas dû choisir, parce que c'est Dieu qui a souverainement choisi pour lui, n'est-ce pas, le jour de son départ. Mais il dit, verset 25, regardez-le, « Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Vous voyez, c'est leur bien-être qu'ils cherchent. Votre avancement, votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Donc Paul se réjouissait malgré le prolongement de la vie, car l'Église de Christ était édifiée. Voir l'Église de Christ établie et affermie donnait à Paul un plaisir immésurable. Je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais vivre assez longtemps pour me marier, pour avoir des enfants. La pensée de mourir avant ça était terrible. Mais Paul, s'il veut prolonger la vie, s'il veut continuer à vivre, c'est pas pour ses propres plaisirs, c'est pour le bien-être de l'Église dans le monde. Je vais vous montrer. Regardez le chapitre 2 et le verset 2. Philippiens 2, verset 2. Vous allez voir le plaisir, la joie que Paul prenait dans l'établissement de cette Église. Il dit, rendez ma joie parfaite. Encore, il parle de joie. Rendez ma joie parfaite. Comment? Bon, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, vous voyez? C'est ça qui me rendra heureux, mes chers Philippiens. C'est ça que je cherche dans la vie. Si je continue à vivre, c'est pour ça. Paul a aimé le troupeau confié à son soin. En Philippiens chapitre 4 et verset 1, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, et très chers frères, Vous qui êtes ma joie et ma couronne, vous êtes ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. En Colossiens 2, verset 5, il dit, car je suis absent du corps, mais je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie, je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Aux Thessaloniciens, il dit, 1 Thessaloniciens 2, 19, qui est en effet notre espérance et notre joie ou notre couronne de gloire ou de réjouissance? C'est qui notre couronne de réjouissance? Et vous savez la réponse? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Et puis de la part de l'apôtre Jean en 2 Jean 1, 2 Jean verset 4, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchaient dans la vérité. Paul aimait le troupeau confié à son soin. Il les avait dans son cœur et donc il trouvait la joie et le plaisir de voir l'Église de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, croître dans la foi. Bon, il y a plusieurs enseignants d'école dimanche ici ou d'une étude biblique. Et Dieu vous a donné 2, 3, 4, peut-être plus personnes pour servir. Il y a des parents ici qui ont des enfants qui vous ont été donnés par Dieu pour leur bien. Il y a d'autres personnes ici qui ont un ministère peut-être en dehors de l'église, en dehors de la famille, de la maison. Mais Dieu a mis quelqu'un dans votre vie envers qui vous devez montrer l'amour et aider, les aider à croître, parce que nous devons tous faire des disciples, n'est-ce pas? Alors, voici la question. Est-ce qu'ils sont votre couronne de joie? Est-ce qu'ils sont vos bien-aimés? Vous réjouissez-vous dans le ministère que Dieu vous a donné et dans les personnes parmi qui vous œuvrez? Est-ce que c'est pour vous une source de joie? Parce que Paul se réjouissait malgré le prolongement de sa vie et toutes les difficultés que ça emportait, parce que l'Église de Christ était édifiée. Il y a un beau témoignage au fait que Paul ne se réjouissait pas dans sa propre provision matérielle, mais dans la santé spirituelle des croyants, et c'est dans le chapitre 4. Donc si vous pouvez tourner au chapitre 4 de Philippiens, et regardez le verset 10. Je veux qu'on compare même nos propres émotions à côté de Paul. Là, il dit dans le chapitre 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie. » Vous voyez, il parle encore de joie ici. « Une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Alors, de quoi part-il ici? Bon, il se réfère à un cadeau financier que les Philippiens lui avaient donné. Ils avaient envoyé un gros cadeau financier et Paul l'avait reçu. Et donc, il éprouve une grande joie dans le Seigneur de ceux qu'ils ont pu enfin renouveler l'expression de leurs sentiments vers lui. On dit, ah, d'accord, je comprends. Hein, Paul est heureux parce qu'on a finalement payé. Il touche finalement un salaire. Bon, on aurait pu croire que c'était le cas, mais Paul clarifie sa pensée dans les 6 versets qui suivent. Et puis, il dit dans le verset 17, regardez le verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dents. » C'est pas ça, mes amis. C'est pas ça qui me réjouit. Au verset 10, il dit « J'ai éprouvé une grande joie. » Non, non, mais ce n'est pas parce que je recherchais les dents et que je les ai finalement reçues. Non, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Donc après tout ce temps, Paul est aux prisons, certainement il avait des besoins très importants, et finalement un gros chèque arrive dans le courrier, et il est tout heureux, il est tout content, il se réjouit, mais ce n'est pas en raison du chèque. C'est parce qu'il a vu évidence d'un fruit qui abondait dans les vies de ses convertis. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Vous pourriez avoir deux mères d'enfants qui disent la même chose. Ils disent toutes les deux, ce qui m'apporterait la plus grande joie, c'est de voir mes enfants bien se comporter et respecter leurs autorités. Voilà, ils disent toutes les deux la même chose. Mais l'une, elle le dit égoïstement, et elle se réjouit dans la paix, dans le silence, dans la tranquillité, hein, qui arrive finalement dans la maison. Et il y a l'autre mère qui se réjouit, elle est contente aussi, mais c'est parce qu'elle voit le fruit spirituel, elle voit la maturité, la croissance dans ses enfants. Donc ces deux dames se sont réjouies dans le bon comportement de leurs enfants, mais ce qui a fait toute la différence était la cause de leur joie. Pour la première, la joie était provoquée par ses propres circonstances favorables, et la seconde par le bien-être spirituel de ses enfants. Paul a eu la joie de la deuxième mère. Il s'est réjoui dans le bien-être spirituel de ses convertis. C'est tous les exemples qu'on peut regarder. Mais avez-vous noté un thème unifiant dans toutes ces choses? Si c'était les saints de Christ, ou la cause de Christ, ou le nom de Christ, ou la gloire de Christ, ou l'église de Christ, c'était Christ. C'était Christ. La joie de Paul était provoquée, pas par des circonstances terrestres, mais par Christ et ses préoccupations. Ses saints, sa cause, sa gloire et son église. Et donc, comme je l'ai dit au début, vous connaissez un chrétien par ce qui le rend heureux. Alors, c'est quoi l'application? Bon, je vais vous donner l'application inspirée qui se trouve dans le chapitre 4 et verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et parfois, nous essayons tellement d'obéir le toujours que nous ignorons les trois mots qui suivent. Réjouissez-vous toujours, quoi? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, vous connaissez un chrétien par ce qui le rend heureux. Et la qualité et la durée de votre joie est déterminée par la qualité et la durée de la cause de votre joie. Si vous vous réjouissez vraiment en Christ, s'il est la source, la seule vraie cause de votre joie, quoi qu'il arrive, eh bien je vous assure que ce n'est pas comme le temps ensoleillé qui vient, qui quitte, qui vient, qui quitte. Non, il est le même hier, aujourd'hui et à toujours, n'est-ce pas? Et donc si votre joie est en lui et il ne change pas, eh bien votre joie ne va pas changer, mais va grandir et grandir, et ce sera comme ça dans le ciel. Parce que la cause, la source ne tarit jamais. Vous connaissez un chrétien par ce qui le rend heureux. Et Paul dit ici, dans ce qu'on peut soutenir comme le point culminant de toute la lettre, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi les prédicateurs se répètent parfois? Pour mettre l'accent sur une vérité. Pour mettre l'accent sur une vérité. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Donc, si vous êtes endormi, réveillez-vous parce que je vais le répéter encore une fois. Réjouissez-vous. C'est un impératif, un présent actif, c'est un ordre. Et ça ne nous dit pas de manipuler les circonstances de sorte qu'elles vous apportent la joie. Non, non, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous savez, il y a une telle chose que la joie du monde. La Bible parle des plaisirs du péché même. Cependant, la Bible dépeint toujours la joie du monde comme étant provisoire, comme étant temporaire. Je veux simplement vous donner quelques exemples pour vous montrer que si votre joie est dans les choses de ce monde, ça ne va pas durer, mes amis, ça ne va pas durer. Job, chapitre 20. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nuées, il périra pour toujours comme son nom, dur même. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus, il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Le psaume 73, où le psalmiste indique, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. J'ai dit, oh, ils ont tellement de bonheur. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les as placés sur des voies glissantes. Tu les as fait tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Vous connaissez l'histoire que Jésus a racontée d'un homme qui avait tellement de ressources, qui voulait construire des greniers encore plus grands, et il se disait, je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est quoi ça? C'est la retraite, n'est-ce pas? J'ai bien travaillé, j'ai mis mes heures, maintenant on va à la plage, on va faire des voyages, faire des vacances toute l'année. Ça me revient, c'est mon dû. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, alors pour qui cela sera-t-il? Hébreux 11 appelle la jouissance du péché qui dure pour un temps seulement. Donc je vous demande ce matin, qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Pensez à ce qui vous rendrait vraiment heureux. Est-ce que vous regardez toute chose comme une perte, comme a dit Paul, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur? Comprenez, ce n'est pas que ces choses deviennent moins agréables, c'est que Christ devient tellement agréable que par rapport à lui, ces choses sont comme une perte. La qualité et la durée de votre joie est déterminée par la qualité et la durée de la cause de votre joie. Vous voyez, c'est ce que je veux vraiment connaître concernant votre vie. C'est ce que je veux vous demander. C'est quoi à l'intérieur, au plus profond de votre être? C'est quoi qui vous rend heureux? Je ne vous demande pas, est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes obéissant à vos parents? Est-ce que vous êtes régulier dans votre assistance à l'église? Est-ce que vous êtes une personne optimiste? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes courtois, attentionné aux autres? Non, 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 ce n'est pas ces choses. Mais c'est ceci. C'est quoi qui vous rend heureux? C'est quoi qui vous rend heureux? Quelles sont les causes de votre joie? Dans quoi réjouissez-vous? Et vous dites, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Puisque vous connaissez une personne par ce qu'ils aiment, et vous connaissez un chrétien par ce qui le rend heureux. Écoutez ce que Pierre indique du rapport entre le chrétien et son sauveur. C'est dans 1 Pierre, je vous le mets ici, 1 Pierre 1,8. Il dit, lui, parlant de Jésus, que vous aimiez sans l'avoir vu, personne ici l'a vu, en qui vous croyez sans le voir encore, eh bien, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Imaginez avoir une joie ineffable et glorieuse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, que une visite à la boîte de nuit ne vous donnera pas ce genre de joie. Un avancement au travail ne vous donnera pas cette joie. Ce garçon ou cette fille sur qui vous avez jeté votre dévolu ne vous donnera pas cette joie. Ce plaisir illicite qui semble si attrayant, si invitant, est chargé de douleur et de peine. Mais il y a une joie ineffable une joie glorieuse. Et Pierre fait exprès d'indiquer la source de cette grande joie quand il dit, parlant de Christ, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et lui en qui vous croyez sans le voir encore, alors vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » C'est lui la cause, c'est lui la source de cette joie. Et la qualité et la durée de votre joie est déterminée par la qualité et la durée de la cause de votre joie. Et vous pouvez avoir cette joie. Vous pouvez avoir la paix avec Dieu. Connaissez un chrétien par ce qui le rend heureux. Et je suis très certain qu'il y a sans doute quelqu'un ici qui fait du théâtre, si on veut dire. Il sait jouer le jeu, mais qui dans son cœur est exempt de cette joie. Il n'a pas de joie en Christ. Et si vous êtes cette personne, vous êtes comme Richard Stier, le puritain, a dit, quand il a dit, ces gens, ils vont si péniblement à l'église et si légèrement au marché. Et pourquoi la différence? Pourquoi est-ce que c'est si facile d'aller au cinéma, au marché, même des fois au cours, plutôt qu'à l'église? Car au marché, le cœur les accompagne. Mais à l'église, il est laissé en arrière. Étant forcé à faire un devoir, puisque son trésor est dans le monde, le cœur s'empresse d'être là encore. Et il est hors de son élément lors d'un exercice spirituel. Est-ce que ça vous dépite? Est-ce que vous êtes hors de votre élément lors d'un exercice spirituel? Vous savez, vous ne pouvez pas duper Dieu. Il connaît votre cœur. Et il attend patiemment, frappant, attendant que vous le laissiez entrer. Vous savez, n'importe qui peut prier une prière, mais ça prend le travail de Dieu dans le cœur d'un être humain pour qu'il puisse se réjouir dans le Seigneur. Pourquoi ne pas lui demander de faire ce travail en vous? Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes entourés par un monde qui nous suggère tous les jours des sources de joie différentes. Nous avons tous creusé dans ces citernes et nous les avons trouvées sèches et vides, sans eau, sans rien pour rafraîchir l'âme. Il y a parmi nous certains sans doute qui creusent toujours dans les puits qu'offre le monde et cherchent toujours la joie dans ces choses qui viendront à rien, qui seront tous détruites. Et nous te demandons de nous illuminer tous, de pouvoir savoir que la seule source de joie éternelle et profonde se trouve en Jésus-Christ. Donne-nous cette joie. Aide-nous à l'appliquer, à l'exercer, à se réjouir tous les jours pour que le monde autour de nous, en voyant la différence des sources de joie que nous avons comparées à eux-mêmes, puissent voir la gloire, la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ et puis tourner vers lui. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.